Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, le disquaire de France Inter. C'est ici au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Samedi, la France va commémorer une fête nationale, le Disquaire Day. Ici, c'est tous les jours la fête pour la scène française qui se donne rendez-vous de 22h à 23h à podcaster, évidemment. Et nos invités tout en vinyle sont ce soir Jonathan Morali de Cinemateurs et Francis Dordor. Francis Dordor qui signe une enquête, disquaire, une histoire. Et quelle histoire, avec des fous furieux, des passionnés compulsifs, des chanteurs qui ont débuté au comptoir de ces boutiques spécialisées, Elton John, David Bowie, Hervé Villard, un excellent vendeur qui avait pour cliente la Calasse, qui chialait chez elle toute seule en écoutant Barbara. À ses côtés, Jonathan Morali réédite les deux premiers albums de Cinemateurs avec des inédits, des démos sous le label Third Side Records qui fête ses 20 ans. Alors que s'est-il passé depuis 2010, date du dernier album? Eh bien de la musique. Au cinéma, pour les jeux vidéo, pour la radio et même pour les musées. Marion.
En attendant demain pour vous lâcher chez vos disquaires favoris, trois nouveaux sons sont à découvrir vers 22h30 dans les nouveautés nouvelles.
Voilà, vous savez à peu près tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Jonathan Morali et Francis Dordor, la rencontre. Première fois, j'en doute.
Si, absolument.
Première fois.
Vous n'avez jamais rencontré le journaliste musical qui est Francis Dordor?
Ben, j'ai pas eu cette chance. Non.
Désolé.
Faute. Professionnel. Non. Il n'y a pas que Bob Marley dans la vie, Monsieur Dordor.
Certes, mais à l'époque où Cinemateurs a émergé, moi, j'étais déjà.
Enfin,
j'étais.
Un pied dans la tombe?
Non, pas encore, mais je me préoccupais d'autres, des autres musiques. J'étais parti dans les musiques du monde, donc je voyageais et j'ai assez peu, finalement, couvert la scène française à cette époque.
Eh ben alors, on va revenir, ça sera une piqûre de rappel pour vous. Francis Dordor, un parcours de journaliste musical, passé par Best, puis des Inrecuptibles, un expert de la scène reggae avec plusieurs livres sur Bob Marley, que vous avez bien connu. Aujourd'hui, c'est un livre sur les disquaires qui sort samedi, premier jour du Disquaire Day. Est-ce qu'il y avait d'ailleurs un disquaire spécial, peut-être pas spécialisé, mais proche de la scène reggae à Paris?
Oui, il y en a toujours un d'ailleurs, je crois que ça s'appelle Patate Record. Et il y a eu aussi, à l'époque où New Rose a disparu, la personne qui a repris le local, donc rue Pierre Sarrazin, c'était un fan de reggae, donc il a ouvert une boutique qui s'appelait Blue Moon, et qui était aussi un label. Donc il y a eu effectivement quelques boutiques. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec la scène londonienne, parce que dans les quartiers tels que Brixton, voilà, il y avait vraiment des disquaires mythiques et qui étaient des anglo-jamaïcains. Donc, mais il y a eu quelques boutiques effectivement spécialisées dans le reggae en France et sans doute ailleurs. Il y a même, je crois, à Clermont-Ferrand, un disquaire qui s'appelle Spliff Records. Donc Spliff, je ne sais pas le traduire, mais
Records, vous pouvez.
Oui, voilà. on voit de quoi il s'agit.
Jonathan Morali, on va parler du groupe Cinemateurs dans quelques instants. Quatre albums, le dernier en 2010. Aujourd'hui, tous réédités avec des inédits, des démos en vinyle. Votre culture musicale, est-ce qu'elle est passée par les disquaires? Est-ce que ça a été un lieu particulier pour vous?
Ça a été, oui, très important, bien sûr. C'est là que j'ai découvert la musique dans les années 90, à l'adolescence. Et voilà, je me rappelle notamment d'un disquaire qui était au bout de ma rue, qui m'a fait découvrir notamment Pink Floyd, ou des choses qui ont été très importantes pour moi.
Elle était où, le bout de votre rue?
Oui, c'était dans le 20e arrondissement de Paris.
Et le disquaire s'appelait?
Il s'appelle toujours B-Disc et il se trouve rue de la Plaine à Paris, pas très loin de Nation.
On le salue, comme dirait Michel Drucker. Voilà, est-ce que vous êtes collectionneur de disques, l'un et l'autre?
Non, je suis pas vraiment collectionneur, mais.
Et vous?
Moi un petit peu. Maintenant, j'ai un peu triché parce que j'ai 45 ans de service de presse, donc si vous voulez. Mais j'ai toujours effectivement un peu la fibre et j'essaye. Alors dans des chemins de traverse, j'aime bien chiner. Je ne suis pas collectionneur, je suis chineur. J'aime bien trouver des pressages originaux. plutôt d'occasion, avec le label d'origine. Enfin voilà, je suis un peu...
Il y a des lieux où on peut trouver ça? Ou vous gardez tout ça pour vous?
Non, il y a des lieux, il y a des boutiques d'occasion. J'aime bien aller, par exemple, dans le quartier Barbès, il y a une boutique qui s'appelle Le Rideau de Fer. Un peu plus haut, rue du Mont-Cenis, il y a Exodisc. Moi qui passe une partie de l'année en Bretagne, j'ai trouvé un disquaire qui est une ancienne station-service dans un bled qui s'appelle les Monts d'Arrée, qui s'appelle Plénée-Ourménez. Donc voilà, c'est complètement perdu et on trouve, j'ai trouvé voilà des vieux disques d'Aretha Franklin, d'Ike and Tina Turner pour à des prix défiant toute concurrence. Donc voilà, ça c'est mon plaisir, c'est un petit bonheur personnel.
Premier album acheté chez un disquaire, Jonathan Morali, vous vous souvenez?
Je crois que c'était une compilation de musique électronique qui s'appelait Synthétiseur 4.
Et pour vous, Francis Dordor?
Moi, ça remonte un peu plus.
Ah oui, j'imagine.
Plus ancien. Moi, c'est en 1968 et c'était le double album blanc des Beatles. Wow. Donc j'avais 13 ans. J'ai pas fait les Barricades, mais j'ai fait voilà.
Premier album, c'est ça. Ouais.
Premier album, donc double album là, et c'était chez. Alors il y avait pas de disquaire à l'époque. J'aidais ma mère sur les marchés, qui était une marchande foraine. Donc je l'aidais et puis dès qu'elle me donnait quelques sous, j'allais dépenser l'argent en disque dans un petit disquaire qui en fait était pas disquaire, c'était un vendeur d'électroménager le long de la Marne. Et voilà, ça a été un peu une boîte de Pandore parce que ce disque, il y a tellement de choses dedans. C'est absolument fabuleux. Il y a même de la musique concrète, il y a du ska, il y a de la country, du blues, enfin bref. Donc voilà, ça a été le premier pas.
Alors le vinyle, on le sait, c'est aussi la pochette, le format carré. Des pochettes d'albums qui vous ont marqué, Jonathan Morali, ou qui vous marquent encore?
Par exemple, l'album de Medal de Pink Floyd, où j'ai mis longtemps à essayer de comprendre ce qu'il y avait, ce que ça représentait.
Alors ça, vous avez trouvé?
Je crois que c'est une oreille.
Vous pensez que c'est ça?
Oui, c'est une oreille. Ouais. C'est confirmé.
C'est confirmé.
Tout à fait.
Et pour vous?
Alors moi, c'est un peu plus particulier. Je dirais c'est Truth Mask Replica par Captain Beefheart and the Magic Band. Donc c'est une tête de poisson. Et c'est un disque que j'ai eu le malheur d'écouter beaucoup trop tôt. Et c'était une forme de point de non-retour. Parce qu'une fois qu'on a écouté ça, c'est impossible qu'on revienne dans la normalité. Voilà, dans les clous.
Je peux imaginer. Encore une image pour se mettre en appétit par rapport à ce livre sur les disquaires. Quand on l'ouvre, on tombe direct sur une photo. Il y a Nico et Yves Adrien, dont on a parlé ici il y a quelques jours. Yves Adrien, rock critique, inspiré des années 70-80. On est en 73. Elle raconte quoi, cette photo? Quand on ouvre le livre, on tombe sur Nico et Yves Adrien. Yves Adrien qui était vendeur à l'époque.
Enfin, j'ai fréquenté l'Open Market qui était...
On va revenir sur l'Open Market, ouais, bien sûr.
Difficile de... Alors, si on y revient, je vais peut-être pas m'étendre, mais voilà, c'était en fait un lieu de passage où il y avait effectivement pas mal d'artistes, et notamment Nico, qui à ce moment-là vivait un peu à Paris, et Yves Adrien, qui a été le vendeur, donc, de Marc Zermati, qui tenait l'Open Market. Et en fait, il y avait pas le téléphone dans la boutique, et donc, il y avait un café qui s'appelait Le Phare, juste à côté, dont m'a beaucoup parlé, d'ailleurs, dans le livre Chrissy Hynde.
Chrissy Hynde des Pretenders.
Et donc, voilà, on voit cette photo où il joue au flipper, parce que c'était encore, c'était avant les jeux vidéo, avant les arcades, tout ça. Il y avait ce billard électronique fantastique qui a animé nos après-midi, voilà.
Francis Dordor, c'est vraiment votre jour, c'est votre day. Vous avez accepté de jouer le disquaire, mais pour un seul titre que vous avez pioché dans la playlist de France Inter, le groupe Marquis avec Étienne Dao, un hommage à la scène rennaise.
Un hommage à la scène rennaise, un hommage aussi, un lien aussi par rapport à mon bouquin, parce que en l'occurrence Étienne a été disquaire à Rennes.
Exactement. Ouais.
Et il m'a accordé un entretien sur ce sujet, donc on parle de cela, et puis également Franck Darcel. Et ces gens en fait se sont assez souvent rencontrés dans des boutiques. Hein. Ça a été le cas pour Disque 2000, qui a été une des boutiques importantes de Rennes, et puis aussi Rennes Musique a été aussi un lieu important de la scène rennaise. Donc voilà, c'était par rapport à ça, à dire que ça a été aussi, ces disquaires ont été aussi des formes d'incubateurs, ça a été aussi des lieux de rencontres assez importants. C'est le cas pour la scène rouennaise, pour Le Havre, enfin voilà.
Le Havre, c'était dans une ancienne poissonnerie.
Oui, qui s'appelait Crazy Little Thing, qui a été ouverte, inaugurée par un journaliste très influent pour moi, qui s'appelle Philippe Philippe Garnier, qui est aujourd'hui aux États-Unis et qui collabore avec le journal, avec le quotidien Libération. Et donc voilà, c'est un peu cette référence. Et puis bon, bah, Dao Marquis, je trouvais que ça avait du sens. Et aussi par rapport à cette chanson, donc est un hommage rendu à Philippe Pascal, l'ancien chanteur de Marquis de Sade, disparu hélas trop tôt, puisque ça devait être le grand retour de Marquis de Sade. Et puis voilà, il est parti trop tôt. Donc c'est un très bel hommage, de très émouvant, comme sait le faire Étienne, et voilà.
Mais voici que descend le soir, fait de grands doutes et d'espoir, de secousses passagères et de pénombre familière. Je serai debout et face au vent. Pardonne-moi, je n'écrirai plus si souvent. C'est un dernier bal qui se traîne sous un ciel maudit de carême. Serait-ce un phare ou ton signe sur lequel enfin je m'aligne. Je serai debout et face au vent. Pardonne-moi, je n'écrirai plus si souvent.
J-1 pour le Disqueur D, dont vous allez être un des héros, avec la signature de ce livre, Disquaire, une histoire, la passion du vinyle. Un livre somme où on apprend plein de choses, genre, la première fois que le mot disquaire est prononcé, c'est par un journaliste d'extrême droite, Dominique Sirdé, qui sera exclu de l'Action française par Charles Maurras pour sa trop grande sympathie avec l'occupant allemand, donc il devait être vraiment à fond. Vous refaites toute l'histoire du disque et des disquaires, de ces temples de l'écoute, avec plein d'entretiens, des témoignages croisés, on y croise vraiment tout le monde, de la Calasse à Chrissy Hynde, en passant par des vendeurs surdoués, style Hervé Villard, des personnages fous comme Marc Zermati, à qui vous dédiez ce livre. Alors peut-être un mot, Marc Zermati, gros plan, c'est qui et comment ce type va participer à cette histoire avec son espace, l'Open Market, à Paris, aux Halles.
Bah c'est alors Marc, oui, évidemment, Marc, qui est décédé, ça fait juste un an, qui a été pour moi une sorte de parrain. Et je fréquentais ce lieu qui n'était pas un lieu facile.
Ah non.
C'était peut-être pas vraiment une boutique de disques comme on l'entend.
Il n'y avait pas de vitrine.
C'était ouvert un petit peu au petit bonheur, la chance, il fallait y aller au bon moment. Et puis surtout, il y avait très peu de disques en fait. Mais tout ce qui était dedans, et d'ailleurs ce que dit Chrissy Hynde qui l'a bien connue puisqu'elle fréquentait l'Open, dont la cave a servi de salle de répétition pour bon nombre de groupes.
Elle y chantait avec les Frenchies.
Elle y a chanté avec les Frenchies. Il y avait Asphalt Jungle de Patrick Heudlin. Il y a eu Henry Paul. Enfin, plein de groupes qui ont répété là. Ty Luke de La Souris a commencé à fréquenter aussi ce lieu. Enfin, bref. Voilà, c'était plus un lieu d'initiation qu'une boutique. Marc était pas quelqu'un de facile. C'était un caractère.
Yves Adrien, qui était le vendeur, n'était pas facile non plus.
Non.
Un snobisme total.
Et d'après ce que dit Marc dit de Yves que par rapport à lui, il était Mère Teresa. Donc je sais pas. Mais moi, voilà, Yves Adrien m'a vendu le Teenage Head des Flaming Groovies. Donc, mais il me l'a pas vendu parce qu'il ne touchait pas à l'argent. Pour lui, c'était trop, voilà, trop trivial. Donc, il laissait un autre encaisser. Mais par contre, il y avait une forme de transmission. C'est-à-dire, quand ils vous vendaient ce disque, on sentait que c'était, il y avait quelque chose, une forme de message, il y avait un adoubement presque de l'ordre de la chevalerie moyenâgeuse. Donc voilà, c'était un lieu. Et lui avait un look absolument invraisemblable avec les cheveux qui lui descendaient jusqu'au bas du dos, une veste en velours noir et chemise généralement avec
un jabot.
Enfin, il y avait quelque chose d'extrêmement aristocratique dans sa manière d'être, qui d'ailleurs transparaissait dans ses articles.
Dans ses papiers, bien sûr.
Ouais, parce qu'il a écrit quelques articles qui sont plus que des articles, ont été des manifestes. Je chante le rock électrique a changé complètement la face de la musique à cette époque-là. Et selon d'ailleurs Malcolm McLaren et beaucoup de témoins anglais, le punk serait vraiment né à cette époque-là au sein de l'open market. D'ailleurs, tous les grands journalistes type Lester Banks, Nick Kent et compagnie étaient assez bluffés, émerveillés par ce côté voilà, presque chapelle pure et dure, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en effet un disquaire pouvait être un lieu, une sorte de mini Factory à l'époque. Il y a Nico qui fait la cuisine au premier étage, donc il y a cette boutique absolument invraisemblable. En bas, il y a Chrissy Hynde qui fait des répétitions dans le local qui ressemble à une cave. Et en effet, c'est un lieu prescripteur et qui va donc, non pas inventer, mais qui va permettre l'avènement du punk en France. Oui. Avec quand même un raté, c'est Patrick Heudlin qui le rappelle pour Marc Zermati. Il a quand même fait des conneries. La plus grosse étant de dire à Malcolm McLaren, ton groupe de petits merdeux, tu te les gardes, en parlant des Sex Pistols que McLaren voulait faire passer à Mont-de-Marsan.
Oui. Ça, c'est absolument vrai. Oui, mais Marc avait cette espèce de, c'était encore une fois, c'était un caractère difficile, et il avait des engouements et des rejets, forcément, en proportion. Il marchait beaucoup à l'affectif, et puis c'était quelqu'un d'une intransigeance incroyable. Cela dit, c'était aussi un lieu, par exemple, et je tiens à le rappeler, que c'est là, par exemple, j'ai acheté mon premier album de Bob Marley, des Wailers, Catch a Fire. Preuve qu'il avait quand même aussi une ouverture. On trouvait des disques de jazz, de Coltrane, de Pharoah Sanders, des choses qu'on trouvait absolument nulle part ailleurs. Donc c'était pas seulement un disque rock au sens pur et dur du terme, c'était quelqu'un qui avait aussi une ouverture incroyable. C'est quelqu'un qui avait fréquenté Max Ernst, qui avait une vie absolument incroyable. Il transmettait ça, il y avait ce rôle de transmetteur, de passeur, et pour moi il a eu une importance décisive dans ma vie et dans ma carrière.
Vous avez connu, peut-être quand même vous n'êtes pas aussi vieux, vous avez connu l'époque où on pouvait écouter les disques...
En cabine.
Non, ça, ouais, ça quand même pas.
Ça, j'ai... Non, c'est arrivé...
En cabine, on pouvait tout faire. Hein. D'ailleurs, ça raconte, certains écoutaient les disques, d'autres baisaient comme des lapins.
Oui, Miles Davis en particulier.
C'est ça,
Miles Davis sur les Champs-Élysées, dans cette boutique qui s'appelait Symphonia. Oui, alors c'est ce que raconte Hervé Villard. Bon,
il raconte beaucoup de choses. Il était excellent vendeur, manifestement.
Il était extraordinaire.
Il avait 14 ans, 15 ans.
Il est toujours extraordinaire raconteur. Enfin, c'est un conteur d'histoire fantastique. Et Sylvie Vartan a travaillé chez Symphonia à peu près au même moment que Hervé Villard, avant que ne démarre leur...
Elle était vendeuse de disques.
Oui, elle a été vendeuse.
À la prochaine fois, on lui en parlera.
Ouais, elle a été vendeuse pendant très peu de temps. Elle voulait s'acheter un collier de perles couleur émeraude, etc. Et la seule moyen de l'acheter qu'elle avait vu en vitrine sur les Champs-Élysées, c'était effectivement de travailler un petit peu parce qu'elle n'avait pas encore lancé sa carrière. Et en même temps, c'est effectivement le moment où elle lance son premier 45 tours. Et cette mise en perspective de cette histoire et de l'importance qu'ont eu les disquaires à travers ces témoignages, je trouve, comme ça n'a jamais été raconté en France, voilà, j'ai pris la peine de le faire.
Alors, il y a un autre lieu très important, c'est le New Rose. On est toujours à Paris, même s'il y a des lieux, on va en parler tout à l'heure, dans le reste de la France. Le New Rose, avec à sa tête un duo, dont Patrick Maté, là aussi, à qui vous dédiez ce livre.
Oui.
Le New Rose, des Damned, on écoute. I've got a new rose, I've got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. Like a brand new rose in town. Je vous vois dubitatif.
Non, ça me ramène tellement tellement loin, tellement dans ma prime jeunesse. Enfin, j'avais quoi, 20 ans, 21 ans, quoi, à cette époque-là.
Le New Rose, donc, un lieu encore
New Rose, c'était pas New Rose, c'était New Rose. New Rose. Oui, parce que là, pour le coup, ça a été... alors, le livre est dédié effectivement à Marc et à Patrick Maté, qui malheureusement ont disparu ces dernières années. Et Patrick Maté étant absolument l'inverse, le contraire de Marc, Patrick Maté avait fait HEC, c'était quelqu'un qui était passé aussi en maison de disques, etc. Il avait une vision assez très très structurée et très rationnelle du métier de disquaire, et il avait saisi effectivement le bon moment pour voilà, il avait pris c'était le moment du punk, l'arrivée du punk, etc. Donc il est devenu, à travers deux boutiques, l'une qui s'appelait Music Box, qui était de la rue Saint-Sulpice, et ensuite New Rose, qu'il a monté avec Louis Thévenon, ça a été effectivement une boutique qui a été essentielle dans l'avènement effectivement du punk, dans son installation, et aussi un lieu très important parce que il est devenu distributeur, il est devenu label, il a signé des tas de choses. La Souris Déglinguée de Ty Luke a sorti son premier album sur New Rose. Donc voilà, ça a été un lieu extrêmement important, une espèce de passerelle pour des tas de gens.
Ce qui est intéressant dans le livre, c'est de voir qu'il y avait vraiment une géographie des disquaires. Donc les gens partaient dans le 6e arrondissement, dans le 4e arrondissement, du côté d'Odéon. Notamment à Odéon, il y avait une boutique qui s'appelait le Music Action, 35 mètres carrés, peint en noir, avec au centre Christian Lavallée, un type bourru qui disait, c'était le seul mot qu'il prononçait, « Ah, pu, j'en ai plus de ça ». Il fallait être infect pour être disquaire.
Il y a une petite anecdote, c'est ce dont parle Miossec, qui lui raconte effectivement ses années de disque, enfin ses années de sa jeunesse à Brest, où il fréquentait un disquaire qui s'appelait D3, la lettre D et le chiffre 3, et voilà. Alors il allait la première fois qu'il est entré chez ce disquaire, l'autre avait l'air tellement rébarbatif, et là Christophe Miossec, il m'a dit c'était bon signe. Preuve qu'il fallait effectivement une forme d'intransigeance, c'est-à-dire qu'on devait avoir affaire à quelqu'un qui n'était pas a priori qu'un commerçant. Je pense que c'était ça l'essentiel. On attendait d'un disquaire quelque chose quelqu'un qui fasse l'arborescence, qui nous parle, qui nous fasse un peu la mythologie. Et il n'y avait que ces personnages-là qui étaient susceptibles de le faire.
Sid Matters, vous qui êtes d'une autre génération, comment vous regardez cette histoire? Est-ce que ça fait vieux combattant pour vous?
Ben non, ça fait un peu rêver parce que au supermarché ou à la Fnac, il y a pas vraiment de mentor qui vous dit quoi écouter. Donc
mais à l'époque à la Fnac, parce qu'il y a eu toute une histoire de la Fnac. Au début, c'était pas si mal.
Ouais, donc il y a eu des disquaires.
Il y a des super disquaires à la Fnac.
Mais moi,
au tout
j'ai
début.
Passé ma ouais. mon adolescence à la Fnac. C'était super la Fnac, mais c'est vrai que j'ai pas croisé de figures comme on en entend ici, c'est-à-dire de vraiment des espèces de passeurs un peu de la ouais. musique du rock et de la musique populaire. Quoi.
Dernière question. Aujourd'hui, un bon disquaire, c'est quelqu'un qui fait du bon café.
Ça pourrait être, oui, effectivement, et je pense que...
Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, tout
c'est-à-dire
à fait.
Pour vivre en temps disquaire, il faut avoir à côté une sorte de salon de thé.
Mais depuis le retour du vinyle, qui est un phénomène qui a commencé, la renaissance du vinyle, quelque chose d'assez improbable, qui a débuté au début des années 2010, enfin, au fin des années 2000, début des années 2010 aux États-Unis, et qui tout d'un coup s'est mis à devenir un phénomène assez incroyable, au point où aujourd'hui, effectivement, le Disqueur Day n'existe existe que parce que effectivement il y a eu le retour du vinyle, et les disquaires qui se sont lancés dans cette aventure ces dernières années le doivent essentiellement au vinyle et effectivement au Disqueur Day avec la structure qui l'accompagne l'événement. Mais effectivement c'est un métier assez difficile. Alors il y a des gens qui ont complètement réinventé le métier. Effectivement il y a un disquaire à rue de Dunkerque qui s'appelle Walrus, qui est tenu par deux anciennes vendeuses de la Fnac, Julie et Caroline, et Walrus est devenu un disquaire bistrot, et donc où on peut effectivement boire un coup, boire un café et en même temps écouter de la musique. Et ça, je pense que ça fait partie aussi des nouvelles aventures, des nouvelles pistes pour perdurer, pour que le métier puisse subsister.
Francis Dordor, vous restez avec nous. On a rendez-vous avec Sid Matters dans quelques instants. Avant de retrouver les nouveautés nouvelles de Marion Guilbeault, je vous propose une révélation, rien de moins. Révélation masculine aux dernières victoires de la musique, c'est Hervé. Il fait son Rodéo, un titre inédit apparu sur Hyper Prolongation, la version augmentée de son premier album Hyper.
Je porte un visage couleur béton. Je porte le blouson que t'aimais bien sûrement. Porte mes prisons, j'ai gardé espoir. Qu'aient plus tes fantômes au parloir. Tout ce que j'entends, c'est Les conséquences, moi je les verrai pas. J'ai l'impression de sortir d'un coma. Quand tes yeux me flinguent d'un verre au pas. Tout ce que j'attends, c'est ton fou rire après. J't'ai perdu, j'savais plus combien j'étais. Cette vie, c'est pâle, c'est fade, sans toi, j'vois pas mieux qu'un autre, j'vois pas mieux que ça.
Le rodéo d'Hervé, Hervé qu'on retrouvera en live dans Côté Club le 16 juin prochain, un concert devant la Maison de la Radio et de la Musique pour son inauguration.
Sexy, côté sexy, côté sexy,
club,
les coups
sur France Inter.
Ça me laisse sans voix.
Celui-là, il n'est que pour moi, le jingle.
Que pour vous, Marion.
Alors, en préparant ces nouveautés nouvelles, j'ai eu envie d'écouter ailleurs, dans une autre direction que celle de la pop urbaine, métissée, souvent passionnante, mais bon, un peu omniprésente en ce moment-là. J'avais vraiment envie d'autres sons, un peu moins auto-centrés, un peu plus connectés peut-être à la nature. Et du coup, je suis partie du côté de la Californie, parce que c'est là que vit Nils Calvi. Nom de musique, Monté Dumas. Il a grandi en France, dans les Alpes, et avant de lâcher les skis, pour prendre l'avion, pour découvrir Berlin, Singapour, l'Australie, Monté Dumas s'est finalement installé sur la côte californienne, comme l'a fait avant lui son confrère Herman Dunne. Là-bas, près des séquoias, il compose une musique inspirée par la vie en plein air et les voyages. Ici, pas d'ego trip ou de cancel culture. Monté Dumas évoque des lieux singuliers, comme le lac Lefroy en Australie-Occidentale, la Dent du Vilard dans les Alpes ou les montagnes de Santa Monica. Ce que j'aime chez lui, c'est cette recherche d'équilibre entre des guitares bossa nova, des synthés tropicaux, un mélange de percussions et les harmonies de sa voix folk. Une musique méditative, parfois même curative, pour célébrer la nature et la joie qu'elle nous procure. Monté Dumas, le titre s'appelle True Balance. Elle est à suivre sur un premier EP qui arrive en septembre. Il y a vraiment un petit côté Fleet Foxes, vous ne trouvez pas, Jonathan ?
Absolument.
Ouais, hein, les harmonies vocales comme ça. On va poursuivre avec une bromance, celle qui est née entre Baptiste W. Hamon et Julien Barbagallo, deux représentants d'une chanson nourrie d'un côté au folk américain, de l'autre à la pop anglaise. Ces deux-là se sont rencontrés il y a peu, mais ont tout de suite accroché avec l'envie d'enregistrer de la musique ensemble. Il faut dire qu'il y a vraiment une fraternité de sons, de références, de valeurs, de physique même entre ces deux-là. Un projet à quatre mains, à deux voix, qui a été retardé bien sûr par la Covid, mais qui a finalement vu le jour à distance avec des échanges de fichiers par-delà les océans. Ça peut sembler plus désincarné que d'accorder des guitares ensemble, mais comme vous le dites souvent, Laurent, la chaleur humaine, l'amitié, se moque.
Je ne peux pas dire ça.
Si, si,
j'ai
mis tout
ça.
Le temps, tout le temps, tout le temps. Barbagallo en Australie, Baptiste en France, quelques invités bien sentis comme la chanteuse Lonnie, qu'on adore par ici, et Stuart Murdoch, héros de jeunesse de nos compères, pour une reprise de Belle et Sébastien. Sept chansons sont donc nées et on plonge dans cette rêverie aquatique qui ouvre Barbagamon, leur album fusionnel.
Je ne connaît de l'océan, que son vœu de silence, que son âme indigo. Les couleurs vives de l'enfance me soulèvent et dans mon cœur s'élève un air de piano.
J'écoute l'eau, c'est extrait de leur album Barbagamon, c'est signé donc Baptiste Hamon, et Barbagallo s'est attendu pour le 3 septembre. De l'eau, il y en a aussi dans les nouvelles chansons de Gaël Faure, elles en sont irriguées, et il les a rassemblées sous le titre L'eau et la peau, avec une trame pop, des questions existentielles sur le pouvoir de changer notre relation à soi, aux autres et au monde. Des thématiques qui sont présentes chez lui depuis un moment, et sa récente expérience de chanter Giono avec le bruit du blé a certainement dû accentuer sa sensibilité. Après 3 albums pour une major, Gaël Faure a choisi de redevenir son propre maître, de s'installer dans la Drôme, de ramener l'art près de la nature et de participer à son humble mesure à une décentralisation nécessaire. Et il y a vraiment tout gagné. Une puissance harmonique avec ce piano qui tombe amoureux d'une trompette, une libération avec sa voix soul qui s'élève pour goûter, comme il le chante, à la vraie richesse.
Il y a une chose. Il y a une chose que je me dois de te dire. Cette chose est bien trop précieuse pour ne pas te l'offrir. Je veux te donner à toi tout le temps. Pour cette chose, je suis prêt à me battre. Comprends-tu qu'il s'agirait là de ne plus se débattre?
Renoncer, c'est Gaël Faure, c'est le premier titre de son nouvel EP, L'eau et la peau, attendu le 10 septembre sur le label Zamora. Vous vous fermiez les yeux, Jonathan Morali et Francis Dordor, en l'écoutant.
Très beau.
Oui, c'est beau. Moi, je ne me rends pas compte que je ferme les yeux quand j'écoute la musique, mais c'est comme ça que j'aime l'écouter.
Côté club.
Sur France Inter.
Discardé J-1 ce soir avec nos deux invités, Francis Dordor et Jonathan Morali pour Sid Matters, une rétrospective, une mini-rétrospective en vinyle des deux premiers albums sous le label Fairfield Records qui fête ses
20 ans.
Exactement. Deux albums donc avec une signature vocale, douceur des arpèges, une folk mélancolique, très mélodique, une pop atmosphérique. On va refaire l'histoire en quelques titres et en anglais, premier single 2003, And Then Start Again.
The sun shines.
It's not too late. That doesn't rhyme. And the rain fall down and the sunshine going over the rainbow. I won't get up.
Et on déroule le répertoire pour Francis Dordor, qui était un peu passé à côté à l'époque puisqu'il s'intéressait aux musiques du monde. Black and White Eyes sur le premier album Whisper on the Side.
She lost her smile.
Alors lui, il n'est pas réédité cet album, mais on va quand même en écouter un extrait pour juste une piqûre de rappel. L'album, c'était Brothers Ocean en 2010.
You stay hidden in the shadows of the lane between the road and the old house. A thousand lonely streets, let me run away from the burned house. Oh, in the fast lane.
Alors quand on écoute ça, c'est en 2010, on se dit mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Plus d'albums, il y a eu plein d'autres choses, hein, on va en parler, il y a eu le cinéma, les jeux vidéo, il y a eu quelque chose au Louvre d'Abu Dhabi, il y a quelque chose avec la radio sur France Culture, plus d'albums, comment on l'explique ce silence discographique, il est dû à quoi ?
Il est dû que je pouvais plus, j'avais plus les ressources pour le faire. Et puis, voilà.
Quand vous dites les ressources, c'est les ressources économiques aussi?
Non, c'était surtout les ressources, je sais pas, psychologiques. Il y a quelque chose de contre-nature, chez moi, au fait de monter sur scène, alors que c'était fabuleux de le faire, mais, et puis prendre le lead comme ça, d'un projet, en fait. J'ai eu la chance de le faire, et ça a duré 10 ans, et puis à un moment donné, j'étais un peu rattrapé par ma nature, qui est plus introvertie que ça.
C'était une souffrance de monter sur scène?
Ça l'est devenu, ouais. Ça l'est devenu. C'est, voilà, j'arrivais plus à être vu, à être regardé, à être devant. Voilà.
Dans cette aventure de Syd Matters, je me suis demandé, parce qu'il y a une tendance depuis quelques années à relifter via la scène indé des artistes, on va dire, plus mainstream. Est-ce qu'on a fait appel à vous pour composer ou pour réaliser ce type de projet pour d'autres chanteurs qui veulent se donner une crédibilité indé?
Bon, crédibilité, j'en sais rien. Oui, on m'a proposé plusieurs fois de collaborer à des disques.
Vous avez refusé chaque fois?
Mais non, je veux pas avoir de principe là-dessus, pas du tout. Moi, je suis déjà assez reconnaissant quand on veut faire appel à moi. Après, c'est très compliqué, parce que se mettre au service d'un auteur, compositeur ou d'un interprète, ça marche ou ça marche pas, mais ce sont des rencontres, comme on dit souvent. Et puis voilà, c'est très rare de pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui on a l'impression qu'on peut faire quelque chose et qu'on peut lui apporter quelque chose, quoi.
Qui aurait pu faire appel à vous?
J'ai pas de nom comme ça, mais voilà, j'ai fait des essais pour des gens qui m'ont appelé et ça, je sais pas, ça m'est arrivé de dire, bah, je suis désolé, j'ai l'impression que ça marche pas ce que je fais là, donc je vais pas. Voilà, mais je suis pas très fort pour tout ça, moi je suis un peu...
Des gens comme Vanessa Paradis, par exemple?
Non.
Non, alors que ça aurait pu bien marcher, justement, ouais.
Ouais. Après, il faut rencontrer les gens, ouais. Il faut leur parler, il faut faire un truc un peu de... que j'ai un peu de mal à faire, mais j'ai pas de principe contre ça, ou bien au contraire.
Dans un entretien, je lisais « Nous n'avons jamais eu beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, beaucoup de notoriété. Ce qui peut être frustrant, c'est quand tu fais 3 ou 4 concerts dans un pays, là, il commence à se passer quelque chose, tu peux rencontrer des gens, sauf que tu n'as plus de thunes. Est-ce que cette difficulté explique aussi ce retrait discographique? Parce qu'on peut continuer à faire des disques sans pour autant monter sur scène, en coûter une force aux ordi, par exemple. »
Je crois pas. On a fait le tour du monde en jouant un peu partout, etc. C'est vrai que parfois on comprend mal la certaines politiques de tourneurs ou de maisons de disques qui effectivement vous font aller jouer un peu loin et puis un peu pour rien, dans le sens où on n'a pas les moyens de rester là-bas, on n'a pas les moyens de développer des publics et des carrières là-bas. Mais voilà. Après, nous, on a toujours été effectivement dans un truc assez indépendant, assez de niche. Mais c'est pas ça qui m'a fait arrêter. C'est pas pour à la fin des tournées de Cinémateur, c'est plutôt là que ça marchait le mieux. Mais...
Tout de suite, on va réécouter Obstacle, un extrait du deuxième album, un titre qu'on a entendu dans la série américaine Newport Beach, et puis dans le jeu vidéo Life is Strange, et ça, on va y revenir.
Sunshine for everyone, but as far as I can remember, we've been migratory animals living under changing weather. We will foresee obstacles through the blizzard, through the blizzard. Today we will sell our uniform, live together, live together.
La folk atmosphérique signée Cinémateurs avec deux albums réédités sous le label Third Side Records qui fête ses 20 ans. Cette réédition, ça représente quoi pour vous ?
C'était l'occasion pour moi de réécouter les disques, par exemple.
Et alors ? Vous avez été surpris ? Vous avez réécouté et réentendu certaines choses que vous n'aviez pas perçues à l'époque ?
Oh, je sais pas, quand même. Mais j'ai pas autant d'indulgence que ça pour mes chansons. Non, mais ça me rappelle une période, et notamment cette période-là où j'ai rencontré les gens de Third Side Records et où j'ai eu la chance de faire des disques et de passer de l'autre côté de cette petite barrière.
Vous êtes vraiment passé de l'autre côté avec notamment ce titre, puisqu'on le retrouve sur la BO, on va dire, du jeu vidéo Life is Strange, La vie est étrange, qui est un blockbuster énorme, un succès énorme. Et moi, je me suis demandé, je sais que vous jouez aux jeux vidéo par ailleurs, vous êtes encore rare en France à composer pour les jeux vidéo, ça commence à venir. Le premier, par exemple, celui qui a ouvert la voie, on va dire que c'est David Bowie en 99, avec un jeu que vous connaissez.
Absolument, qui s'appelait Nomad Soul.
Exactement. Le fait de composer de la musique instrumentale, donc de ne pas chanter, est-ce que ça vous a libéré ?
Ouais, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, oui. J'étais un peu embarrassé par cette voix-là, donc j'ai appris à faire de la musique instrumentale, donc via le cinéma ou d'autres médias.
Justement, vous avez travaillé pour le cinéma, pour plein de réalisateurs, Nicolas Klotz. Vous avez travaillé aussi pour le film Mauvaise fille, c'était Patrick Mille, le réalisateur. Il y a aussi du cinéma d'animation, il y a aussi des documentaires. Quand on travaille pour le cinéma, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on a le réalisateur, on a aussi le producteur qui quelquefois donne des avis très tranchés. Est-ce que ces contraintes, elles vous ont intéressé? Est-ce que ça vous a fait grandir?
Mais je crois, ouais. Alors la première des contraintes, qui est pas vraiment une contrainte, mais qui est le fait qu'il faut être très à l'écoute de ce que l'auteur ou l'autrice de l'œuvre à laquelle on participe recherche. Et je pense que c'est déjà ce dialogue-là avec le cinéaste ou la cinéaste qui c'est pas une contrainte, c'est une espèce de volonté d'être à l'écoute d'une sensibilité qui est pas uniquement la sienne, quoi.
Vous avez dû revoir votre copie quelquefois.
Bien sûr. Ça fait partie du jeu, et puis c'est aussi un truc que
je vois sourire en disant ça, disons que c'était presque jouissif, je vois ça.
Non, mais parce que j'aime bien ça, parce que j'ai pas appris la musique, par exemple, j'ai pas appris au conservatoire ou que sais-je, donc en fait, moi, le côté un peu autodidacte, à un moment donné, les trucs qui m'ont appris à faire de la musique, c'est notamment les gens et ce qu'ils pouvaient dire sur ma musique, et plus les critiques sont affirmées, plus j'essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe, et ce que je fais, et ce qui ne va pas.
Tout à l'heure, quand on vous a demandé si vous aviez déjà composé pour d'autres, vous aviez l'air de dire justement, vous n'aimiez pas forcément, que ça avait été compliqué de revoir votre copie peut-être pour des gens qui vous avaient demandé des choses. Et là, pour le cinéma, ça a l'air d'être beaucoup plus facile. Est-ce que c'est parce que c'est un autre art finalement, c'est autre chose?
Non, mais c'est pas difficile de revoir ma copie, vraiment pas. C'est simplement que parfois on n'y arrive pas. Je veux dire, moi j'essaye de faire des choses. Je suis très impressionné aussi par les gens. Vous pouvez être appelé par des gens qui que vous aimez, que ce soit d'ailleurs des musiciens, des chanteurs ou des cinéastes. Mais après, faut être aussi, il faut pouvoir donner quelque chose en fait. Voilà. Donc c'est, je l'ai revu, mais quand on la revoit 10 fois et que ça va pas, on se dit bon.
Bon alors oui, non, on passe à autre chose. Francis Dordogne, vous avez été musicien aussi.
Très brièvement.
Ouais. Dans un lycée, au lycée, dans un garage avec des potes.
Ouais, entre autres, et on avait formé un groupe avec Philippe Manœuvre et quelques confrères qui s'appelaient les Rock Critics. Lui était batteur, moi j'étais bassiste, et comme c'était ma période jamaïcaine, j'apprenais la basse. Donc voilà, mais ça a pas duré très longtemps. Donc voilà, on répétait en fait dans les caves de Metal Hurlant, des Humanoïdes Associés, qui était voilà le lieu où travaillait Philippe.
Il y a eu plein d'autres projets. Je regardais vraiment la discographie impressionnante en BO, mais aussi des expériences, notamment du côté de l'art. Vous avez fait une création musicale pour le Louvre d'Abu Dhabi en 2019. Ça consistait en quoi, Signatures?
Alors, c'était des gens que j'avais rencontrés à France Culture, d'ailleurs, qui m'avaient proposé de faire ça. Ça consistait en quoi? C'est-à-dire que c'était des casques connectés et géolocalisés. Et qui faisait qu'en fait, il fallait que je compose la musique pour l'intégralité d'une espèce de balade dans le musée, et en fonction de ce que les gens voyaient, dans quelle pièce ils étaient, ou la façon dont ils étaient positionnés par rapport à telle ou telle œuvre, il y avait un mixage dynamique de la musique. Donc il fallait créer des espèces de pièces musicales un peu particulières, avec des variations d'instrumentation, en fonction de ce que faisait, ça ressemble un peu aux jeux vidéo, en fonction de ce que faisait le visiteur.
Travailler pour le jeu vidéo et le cinéma, c'est pas du tout pareil. Il y a des questions de temporalité totalement différentes, en fait.
Ah bah oui, parce qu'il n'y a pas la contrainte du montage de l'image qu'il y a au cinéma, qu'il n'y a pas dans le jeu vidéo, qu'il n'y a pas... Et oui, c'est très différent. Mais la contrainte du cinéma de synchroniser ou qu'il se passe quelque chose avec l'image, avec telle scène, c'est très intéressant, mais ça peut être parfois un peu contraignant. Là où dans le jeu vidéo, la musique, elle est faite en concomitance avec le jeu et le développement. Donc il y a beaucoup plus, de fluidité.
Vous jouez à quel type de jeu?
Des jeux un peu chiants, de stratégie, des trucs un peu comme ça. En fait, je joue un peu aux échecs, quoi, mais sur un ordinateur, quoi.
D'accord, vous ne dégommez pas des gens dans des villes invraisemblables?
J'ai passé l'âge.
C'est parfait.
J'en ai dégommé.
C'est parfait, ce sera le mot de la fin. On va se quitter avec Delgrès, qui eux en ont assez, alors que nous on dirait plutôt encore dans Côté Club. Eh bien, c'est la fin du monde, c'est la fin de Côté Club ce soir. Merci Francis Dordor.
Merci à vous.
Disquaire, une histoire, la passion du vinyle, un livre formidable, dynamique, avec une construction d'entretien croisé. C'est tout ce qu'on espère dans un livre de ce genre. Ça sort samedi chez GM Édition. Timing parfait, puisque samedi, c'est l'ouverture de la 11e édition du Disquaire Day jusqu'au 17 juillet. Et on pourra venir vous voir en vrai samedi pour une rencontre chez Joseph Gibert dans le 5e arrondissement à Paris à 17h30. Sid Matters, je rappelle la réédition classieuse de deux albums sous le label Third Sad Records pour leurs 20 ans. On pourra le rencontrer le 14 juillet prochain au Festival d'Avignon et en direct chez nos amis de France Culture avec une pop-fiction sur la métamorphose de Kafka. Marion ?
Les nouveautés nouvelles avec les sons de Montédumas, Baptiste W. Hamon et Barba Gallo et de Gaël Faure sont à retrouver sur notre site.
Voilà, Côté Club, c'est une équipe qui tourne bien. Stéphane Le Guenec à la réalisation, à la technique ce soir, Clément Vuillet. La programmation est assurée par Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic, avec la collaboration de Tiffany Mendes et Muriel Pérez, toujours fidèles aux playlists. Lundi, une émission spéciale avec l'homme idéal Bertrand Burgala. En rédac-chef, il a invité l'homme heureux Nicolas Pogam et Jean-Emmanuel Deluxe. Marion ?
Avant lundi, il y a samedi, je reviens 5 minutes sur le Disquaire Day. Il va y avoir beaucoup de rééditions. Bertrand Burgala, Lélie Mignanas, Cascadeur Nouvelle Vague, des sessions uniques de FIP avec Last Train, Bandi Bandi, Barbara Carlotti et Pierre Davenkeller, des apéros chez les disquaires à partir de 18h, des disquaires drinks et une journée très vinyle chez nos amis de Grande Contrôle.
Voilà, Côté Club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir. Pas à demain. Je vous souhaite le bon week-end.